Adjéré Père Philippe, 22 février 1984, Saint-Joseph.
Nous avons donc, au point de vue éthique, précisé la signification de l'acquisition des vertus. Pourquoi il est nécessaire pour nous d'acquérir les vertus ? Pour que l'amour d'amitié puisse se réaliser parfaitement. Sans les vertus, alors je reviendrai au cours de tout à l'heure au point de vue de la philosophie du vivant, sans les vertus, très souvent, nous restons au niveau imaginatif. Et l'imagination fait la confusion entre le domaine du concupiscible et l'irascible. C'est le propre de l'imaginaire, ça. C'est le propre de l'imagination de bloquer le fait du concupiscible et de l'irascible. Et alors, il se fait ce fait, c'est que nous croyons aimer, et en réalité, c'est l'irascible qui l'emporte. L'irascible devrait être au service du concupiscible, et très souvent, l'irascible n'est plus au service du concupiscible. Et l'irascible désire dominer. Espèce de colère qui monte en nous et qui fait que nous éclatons à certains moments. Parce que de fait, c'est l'irascible qui se nourrit constamment par l'imaginaire et qui veut dominer. Alors, qu'est-ce qui vient donner cette lucidité ? C'est d'une part la prudence. La prudence permet de lutter contre l'imaginaire. La prudence est au niveau de l'intellect pratique. Et l'intellect pratique nous permet de lutter contre l'imaginaire. Ça, nous le voyons très bien. Dès qu'on est plus fatigué, l'imaginaire monte. C'est comme les brouillards de Hollande. C'est très, très net. Arrivé si on était, c'est extraordinaire de voir ça. On voit le brouillard qui monte. C'est tout à fait... Dès qu'on est fatigué, le brouillard monte. L'imaginaire monte. Quand on n'est pas fatigué, l'intelligence est éclairée. Mais dès qu'on est fatigué, le brouillard monte. Alors l'imaginaire augmente. Et on a beaucoup de peine de garder la lucidité. L'imaginaire nous empêche de discerner l'objectif du subjectif. On ne sait plus si c'est objectif ou subjectif. On ne sait plus. Et on ne peut plus le savoir. La prudence est là pour éclairer et nous faire comprendre ce qui est objectif. La prudence est au service de la finalité, au service du bien. Alors la prudence va canaliser le point de vue imaginaire et va faire que ce qu'Aristote appelle la raison droite, l'orthos logos, hein, cette chose si difficile à bien préciser dans Aristote, l'orthos logos, la raison droite va venir dominer l'imaginaire et rectifier à travers les moyens sensibles notre finalité, notre intention de vie. Donc là, nous luttons contre l'imaginaire. C'est sûr que c'est la prudence qui lutte le plus contre l'imaginaire. Vous voyez, les artistes se servent de l'imaginaire et ordinairement, l'art, quand il se développe dans un individu indépendamment de la prudence, l'art remplace la prudence. On a tous vu ça chez des artistes. Comme il est difficile pour des artistes d'être prudents. C'est peut-être la chose la plus difficile pour un artiste. Alors, chez l'artiste, l'imaginaire est éduqué d'une manière toute différente que chez l'homme prudent. Mais c'est quand même une certaine éducation d'imaginaire. Parce que c'est l'utilisation d'imaginaire en vue d'une œuvre. Dans l'inspiration. L'inspiration, c'est l'intelligence qui domine. C'est pas l'imaginaire qui domine. Même dans une inspiration romantique. Dans l'inspiration romantique, évidemment, l'imaginaire tire très fort. Je crois que c'est là où l'inspiration romantique est la plus forte. Et on sent très bien que l'imaginaire pousse beaucoup. C'est pour ça que le romantique, au bout d'un certain temps, va tomber dans quelque chose qui sera purement imaginaire. On devra en ajouter indéfiniment. Oui. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans l'imaginaire. On croit qu'en en ajoutant, ça fera mieux, de mieux en mieux. C'est quantitatif, c'est imaginatif. Ça, c'est le procédé de l'imagination qui l'emporte sur l'inspiration. Alors, normalement, dans l'inspiration, l'imaginaire est éduqué par l'inspiration, et donc l'intelligence pratique domine l'imaginaire pour orienter l'imaginaire par l'intelligence vers une œuvre à réaliser. Parce que quelqu'un qui est dans le pur imaginaire ne réalise rien. Rien du tout. Il plane. C'est la mouche du coche. Ça plane, c'est pas trop où c'est. Ça ne réalise rien du tout, alors que l'artiste réalise quelque chose en tant qu'artiste. Et l'homme prudent domine l'imaginaire. Vous voyez, les deux manières dont l'imaginaire est dépassé, mais de façon tout à fait différente. Il faut bien comprendre, de façon tout à fait différente. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir, ça on le verra en philosophie de l'art, les oppositions qu'il peut y avoir entre la prudence et l'art. Je les réserve à la philosophie de l'art, plutôt. C'est très intéressant, c'est un des problèmes extrêmement intéressants au point de vue artistique, c'est de voir la rivalité constante entre l'art et la prudence. Ici, je me place de cette auto-éducation que nous devons avoir, par la prudence qu'on acquiert, on arrive à dominer l'imaginaire. C'est pas commode, hein, surtout quand on est fatigué. Sûrement que la fatigue augmente l'imaginaire et fait qu'on a de la peine à le dépasser. Alors on est quelquefois comme enlisé, et on n'arrive plus. Et plus on se débat, plus on s'enfonce, et plus l'imaginaire devient fort. Alors il faut à ce moment-là, je crois, c'est la seule manière, c'est de revenir à nos intentions profondes de vie. Il faut quitter le terrain du combat et aller plus haut et alors redoubler nos intentions de vie. Voilà ce que je veux faire. Je veux aimer. Si on est dans la morale religieuse, je veux adorer. Et ça, nous le verrons. Comment l'adoration maintient un réalisme et donc permet le dépassement de l'imaginaire. Pour l'auto-éducation, pour une âme religieuse, c'est sûrement l'adoration qui est l'arme la plus forte pour lutter contre l'imaginaire. Parce que ça nous remet dans une position réaliste. La contemplation le fait beaucoup moins vite, vous voyez. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre en contemplation quand vous voulez. C'est moins volontariste, la contemplation. Et donc, quand vous êtes saisi par le cyclone de l'imaginaire, hein, le cyclone de l'imaginaire a beaucoup de peine de s'apaiser par la contemplation. Si Dieu nous donne une grâce de contemplation, alors ça va très vite. C'est en un instant. C'est ça, c'est en un instant. On passe du gros nuage imaginaire. Ah, immédiatement, silence, merveilleux. Alors c'est l'action de Dieu, ça. Dieu n'est pas dans l'imaginaire. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu est dans la lumière et dans l'amour. Ça peut se faire dans un seul instant, ça c'est sûr. Mais normalement, la conquête sur l'imaginaire se fait par la prudence, par nos actes prudentiels. La conquête de l'imaginaire se fait par la vertu de justice à l'égard de l'autre. La conquête de l'imaginaire se fait par la force à l'égard de l'irascible. La conquête de l'imaginaire sur le concupiscible se fait par la tempérance. Vous voyez, vous pourriez mettre ceci de cette manière-là pour mieux comprendre, hein, ce que nous avons vu, puisque nous avons vu les quatre vertus cardinales. Et les quatre vertus cardinales sont des quatre vertus qui luttent contre l'imaginaire. Alors, vous avez l'imaginaire. L'imaginaire qui s'oppose à l'intelligence pratique. la prudence. La prudence empêche cet imaginaire de gagner l'intelligence pratique, d'obnubiler l'intelligence pratique. Vous avez l'imaginaire par rapport au droit du prochain, le droit de l'autre. Alors, l'imaginaire qui empêche, vous voyez, la prudence remet des intentions de vie. Et vous pouvez garder les moyens en vue de ces intentions de vie. Les droits de l'autre, l'imaginaire obnubile le volontaire, ça c'est le volontaire, de nous empêcher de saisir le droit de l'autre. Et la justice est là, pour nous remettre en présence le droit de l'autre. Alors ça serait curieux à voir. Comment l'imaginaire empêche de découvrir le droit de l'autre. C'est-à-dire empêche, je crois, de saisir le respect qu'on doit à l'autre. L'imaginaire ramène à nous, vous voyez, ça nous ramène à nous-mêmes, c'est subjectif l'imaginaire, c'est terriblement subjectif, enfin, c'est sûr. Et donc ça ramène le droit de l'autre, le bien de l'autre à nous, on ne voit plus, on ne voit plus ce que c'est que l'autre et son droit. Et c'est l'imaginaire qui empêche ça en contaminant le volontaire, parce que le volontaire se porte sur l'amour de l'autre, et l'imaginaire contamine ça. On voit moins bien les exemples là. Du côté de la prudence, on voit très très bien. On ne voit plus exactement où est la finalité, on ne voit plus très bien où est le côté objectif. Mais du côté prudence, du côté justice, du côté du droit de l'autre, il est sûr que l'imaginaire peut contaminer l'affectivité volontaire et empêcher de voir le droit de l'autre. En empêchant de voir le droit de l'autre, je considère que l'autre, c'est mon prolongement, oui. Donc ce que je prends de sa poche, ça revient au même, c'est comme si je le prenais de ma poche, ça n'a pas d'importance, on est tellement un. C'est une espèce d'imagination d'une unité, d'une identité. C'est une identité qui se produit là, une fausse identité imaginaire. On se bloque avec l'autre et on ne voit plus le droit de l'autre. Alors la justice est là pour nous donner le sens de l'autre et le sens du droit de l'autre. Et donc devient purifier la volonté, en mettant la volonté face à ce poids vis-à-vis de l'autre. Alors l'imaginaire vis-à-vis des racines, ça, c'est très facile à comprendre. Alors c'est la force qui vient purifier les racines de l'imaginaire. Et l'imaginaire est complétissime. Évidemment, comprenez bien, c'est peut-être ça qu'il faudrait comprendre. Dans la mesure où le volontaire est entièrement pris par l'imaginaire, le côté affectif, spirituel, va disparaître et va se confondre avec l'affectivité passionnelle ou les racines du concupiscible. Et c'est pour ça, quand on ne voit plus les droits de l'autre, où on veut dominer sur l'autre, où on veut en profiter. Et de manière, on utilise l'autre, vous voyez, c'est qu'on ramène l'affectivité spirituelle à l'affectivité de l'irascible ou à l'affectivité du concupiscible. C'est ce que fait l'imaginaire. L'imaginaire fait la confusion entre l'affectivité spirituelle et l'affectivité sensible. Les deux modalités de l'affectivité sensible, l'irascible et le concupiscible, sont confondus avec l'affectivité spirituelle. On voit plus ce que c'est que le volontaire. L'inhibition du volontaire, quand il est complètement inhibé, c'est l'imaginaire qui fait ça, c'est l'imagination qui inhibe notre volonté. Notre volonté qui fait qu'à ce moment-là, on n'a plus aucune volonté, on n'a plus aucun ressort, aucune possibilité de poser un acte volontaire. On se laisse prendre par les pulsions, comme on dirait au point de vue psychologique, les pulsions de l'irascible, les pulsions du concupiscible. C'est la seule chose. Alors, on traduira ça élégamment dans un terme artistique, en disant je ne suis pas en état de grâce. Laissez-moi tranquille, je ne suis pas en état de grâce. Alors je ne peux pas. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de pulsion d'irascible, il n'y a pas de pulsion du concupiscible, tout simplement. On n'est pas motivé par l'irascible ou concupiscible. Quand le volontaire est complètement inhibé par l'imaginé, il n'y a plus que l'irascible ou concupiscible. Et c'est en ce sens-là que je dis les droits de l'autre disparaissent dans cette fausse identité. Cette identité fait que je veux dominer ou je veux utiliser. Utiliser en jouissant. Alors vous voyez comment, et ici la différence, au fond, les vertus, si je comprends bien les vertus cardinales, c'est rendre salubre le terrain humain du psychisme. C'est ça les vertus. Rendre salubre, vous voyez, enlever les fièvres paludiennes. On y revient toujours aux fièvres paludiennes. Permettre à notre psychisme humain d'être humain, alors que par l'imaginaire, il n'est plus humain. Il se laisse conduire par des pulsions. D'irascible ou de concupiscible. C'est l'imaginaire qui domine, c'est tout. Et alors, à ce moment-là, vous voyez bien que forcément, on est irascible et concupiscible, donc il y a des montées et des descentes. Il y a des jours où tout en rose, magnifique, et puis le lendemain, c'est la tristesse absolue. Il n'y a plus cette durée du vivant. La durée du vivant vient de la prudence. C'est l'intelligence qui me permet de dépasser ces espèces de chute terrible qu'on peut faire au niveau imaginatif du concupiscible et de l'irascible. C'est la durée de la prudence. C'est ça ce qu'il y a de grand dans les vertus, c'est vraiment de permettre à notre psychisme de s'organiser en vue d'un amour spirituel. Et c'est comme ça qu'on doit, je crois, redonner le sens aux vertus. On dirait aujourd'hui revaloriser les vertus. Revaloriser les vertus, c'est de leur faire comprendre que par les vertus, je peux aimer. Sans les vertus, c'est l'imaginaire qui l'emporte. Alors, qui enlève toute espèce de possibilité de volonté, qui empêche l'irascible et le concupiscible d'être à leur niveau. Tout est confondu. Et on tombe dans un être qui, à ce moment-là, est l'enjeu des pulsions d'irascible et du concupiscible. Parce que ça demeure très fort. Hein. Et c'est lié à l'imaginaire. Je crois que c'est la première chose qu'on doit comprendre au point de vue philosophie de la vertu. Vous voyez que les vertus sont faites pour dominer l'imaginaire. L'imaginaire est très très fort dans notre monde d'aujourd'hui. Hein. Tout cultive l'imaginaire. Seulement tout cultive l'imaginaire. Quand vous regardez la télévision, là, c'est cultiver l'imaginaire. C'est faire que les jeunes ne vivent plus que d'imaginaire. Ils sont entièrement pris par des images, des mouvements, les sensibles communs. Les sensibles communs cultivent le point de vue imaginaire. Tandis que les sensibles propres alors nous remettent devant des qualités. Et nous remettre devant quelque chose qui nous empêche de nous laisser prendre et être esclaves de l'imaginaire. On est esclaves de l'imaginaire. Et toutes les propagandes se font au niveau de l'imaginaire. Les propagandes de toute espèce de niveau, au point de vue purement économique, ou des propagandes beaucoup plus dangereuses, au point de vue proprement satanique. Enfin, c'est toujours l'imaginaire. On essaie de mettre l'homme dans l'imaginaire pour en faire ce qu'on veut. Parce qu'on fera de l'homme ce qu'on veut une fois qu'il est pris par l'imaginaire. Alors, nous devons essayer, vous voyez, c'est je crois, ce que nous devons essayer, c'est de maintenir en nous cette lucidité de la prudence qui nous permet de redécouvrir la justice, de redécouvrir la force et la tempérance, qui remettent ces différentes forces qui sont en nous dans une perspective qui soit vraie en vous. D'un amour d'amitié. sens-là, vous voyez que l'amour d'amitié finalise et est un mobile merveilleux d'éducation. Mais il faut faire encore attention, il faut que cet amour d'amitié reste un véritable amour d'amitié spirituel et non pas passionnel. Parce que si cet amour d'amitié retombe dans l'aspect amour passionnel, alors il nourrit l'imaginaire, comme toujours. C'est alors un cercle infernal. Il faut que ce soit un véritable amour d'amitié, c'est-à-dire un amour d'amitié qui permette le dépassement de soi pour découvrir comment l'ami est vraiment le bien spirituel et pas en premier lieu le bien sensible. Si l'ami est en premier lieu le bien sensible, alors c'est le point de vue du concupiscible qui va l'emporter et tout va être polarisé par le concupiscible. Si l'ami est uniquement l'utile, je m'en sais, ça dominera sur les racines. Oui. Je crois qu'il faut saisir cela et comprendre toute la complexité de notre psychisme et essayer de le comprendre au niveau psychologique, comme je vous avais dit la dernière fois, et au niveau philosophique. Au niveau philosophique, nous saisissons les finalités. Au niveau psychologique, nous saisissons comment le conditionnement dans toute sa complexité peut jouer entre l'imaginaire lié au concupiscible et les racines. Parce que la coupe psychologique, l'analyse psychologique, ne fait pas ces niveaux. Nous faisons là, vous voyez, ces trois niveaux. Nous faisons le niveau spirituel, qui implique l'intelligence pratique et la volonté, le niveau sensible, les racines et les concupiscibles. Et dans le sensible, c'est deux niveaux, les racines et le concupiscible. Donc il y a trois niveaux que nous devons discerner. Au niveau psychologique, puisque au niveau psychologique, on regarde l'exercice. On regarde le conditionnement. C'est la même chose, quand je dis l'exercice, le conditionnement, parce que tout exercice est dans le conditionnement. Quand vous écrivez, vous êtes dans l'exercice, vous êtes dans votre conditionnement. Tout exercice est au niveau du conditionnement. Bien, au niveau de l'analyse qui se fait, au niveau de l'exercice comme tel, tout est confondu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez chercher? C'est uniquement des dominantes, des constantes. Qu'est-ce qui domine? Il dominera la jouissance. Qu'est-ce qui dominera? La colère. Qu'est-ce qui dominera? Ce sont les dominantes que vous cherchez dans l'exercice. Parce que dans l'exercice de votre psychisme, la coupe de votre psychisme, qu'est-ce qu'il implique? Votre psychisme actuel, ce qu'on appelle le psychisme. Qu'est-ce que ça implique, le psychisme, pour vous? Pour moi aussi. Donc, notre psychisme, si vous voulez. Notre psychisme implique quoi? Une affectivité passionnelle. Liée à l'imaginaire. Donc, première chose, toujours. Le psychisme est toujours dans l'imaginaire et l'affectivité passionnelle. Lié à certains éléments volontaires, quand ils ne sont pas complètement inhibés par l'affectivité passionnelle, et lié à certains éléments de l'intelligence, quand cette intelligence n'est pas complètement inhibée par l'imaginaire. Quand l'intelligence est complètement inhibée par l'imaginaire, vous êtes esclave de l'imaginaire. Et vous n'avez plus aucune autonomie personnelle. Vous êtes tout le temps relatif à des motivations. Plus aucun recul. Ça, c'est vrai, ça existe, ça faut reconnaître. Et quand la volonté est inhibée par l'affectivité passionnelle, vous êtes entièrement malléable par les motivations de l'irascible du monde. Alors, on n'est plus une personne. Il y a le jeu psychologique qui demeure, on n'est plus une personne. Parce qu'il n'y a plus d'autonomie. Il n'y a plus de finalité. Vous êtes dans un conditionnement absolu. Mais ça, je crois qu'on peut le saisir facilement. C'est intéressant de comprendre qu'au niveau psychologique, saisissant le conditionnement, vous ne faites pas la même analyse, mais vous saisissez les dominants, vous saisissez les lois psychologiques. Alors, les lois psychologiques, elles sont très simples, les lois psychologiques. Les lois psychologiques, c'est que, de fait, il y a quelques aspects qui dominent la jouissance et la colère. Ça joue un très, très grand rôle au point de vue psychologique. La jouissance et la colère. Dans la jouissance, il y a l'amour. Et c'est un amour qui est parfaitement conscient de la jouissance. Et la colère, c'est quand je n'ai pas assez de jouissance. Alors je me mets en colère. Rétablir un équilibre psychologique, oui, comment ça peut s'établir? Mais ça ne donne pas le point de vue. Je parle du point de vue psychologique, hein, le point de vue psychologique le plus bas. Ordinairement, la psychologie, quand elle est vécue par des hommes qui savent qu'au-delà de la psychologie, il y a l'homme et il y a le chrétien. Alors à ce moment-là, la psychologie se double d'une vision philosophique. Non, c'est la différence. Je parle ici du pur psychologue freudien. Le pur psychologue freudien verra tout au niveau jouissance et colère. Et la colère est plus noble que la jouissance. Je me souviens très bien quand je voyais les Freudiens à Paris et qu'ils me parlaient de leur malade, ils me disaient, ah, ça va mieux, il entre dans la phase colère. Très bien. Parce que quand on entre dans la phase colère, ça prouve justement qu'on a dépassé un tout petit peu la jouissance. Tandis que quand on est dans la pure jouissance, il n'y a même plus de colère. C'est la petite fourmi, vous voyez, ou la petite guêpe qui est dans le miel. On n'est pas de son dans le miel. On ne sort pas. Un tout petit peu de recul pour se mettre en colère. Donc il y a un tout petit peu d'autonomie qui commence. Et le premier signe de l'autonomie, c'est dans la colère, c'est pas dans la jouissance. Et c'est très vrai, ça, c'est que les deux, alors les deux passent l'un à l'autre, oui. Alors évidemment, on ne peut pas rester toujours dans la colère, il faut quand même essayer d'en oublier un tout petit peu. Donc, on essaie d'en oublier. Et alors ce sera la notion, si on a un tout petit peu de sens moral, la notion du devoir. Qui apparaît là. Le devoir. Oui, c'est la notion du devoir. En réalité, il faudrait là découvrir le véritable amour spirituel. Parce que la notion du devoir, vous voyez, c'est volontariste. Au fond, c'est la justice. C'est la justice à l'égard de soi et à l'égard des autres. C'est déjà quelque chose. Hein. C'est beaucoup mieux que de rester uniquement devant la colère et devant la jouissance. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Nous allons tout de suite entrer maintenant, si vous voulez. Nous sommes toujours dans la recherche, ne vous oubliez pas, de ce que représente notre responsabilité. Nous sommes partis de là pour comprendre ce qu'est une philosophie éthique. Et nous avons commencé notre philosophie éthique en comprenant la responsabilité de l'ami à l'égard de son ami. L'ami est responsable de son ami. Quand il l'aime vraiment, il est responsable de son ami. Et à partir de la responsabilité, on a essayé de comprendre ce que c'est que l'amitié. Et nous avons vu comment l'amitié impliquait tous ces actes différents au point de vue humain, au point de vue éthique, au point de vue moral, et comment cette attitude se réalisait dans la lutte, et qu'il fallait conquérir constamment notre autonomie morale par rapport à ces vagues imaginaires qui ne cessent de nous inhiber complètement et de nous empêcher d'être nous-mêmes. Et donc, il faut acquérir les vertus. Maintenant, je vais regarder un second point de l'éthique, ce que j'appellerais l'éthique religieuse. Ce n'est plus l'éthique humaine, c'est l'éthique religieuse. Première dimension, l'éthique humaine. Seconde dimension, l'éthique religieuse. Il y a un autre niveau d'éthique, je vous l'ai dit, puis le troisième, c'est l'éthique chrétienne. Pour que vous ayez tout de suite les trois, je vous les ai donnés au début, c'est pour vous les rappeler. Nous vivons notre vie morale notre vie de responsabilité à trois niveaux différents. Si nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous avons trois niveaux de responsabilité qu'il ne faut jamais confondre. Le niveau chrétien, le niveau religieux, le niveau humain. Le niveau chrétien ne supprime pas le niveau religieux, ni le niveau chrétien, ni le niveau humain. Plus on est chrétien, plus on est homme. Et donc plus se développe en nous l'attitude du chrétien, plus le point de vue de la morale humaine, l'éthique humaine doit être développée. Ça, c'est très important de bien comprendre qu'il y a trois niveaux. Il faut arriver petit à petit à bien les discerner. Ça demande un peu de lucidité. C'est ce qu'on doit faire. Et la réflexion que nous faisons ensemble, c'est pour que vous ayez cette lucidité, pour que vous essayiez de comprendre, dans des exemples très simples, assister à un cours de philosophie. Assister à un cours de philosophie. Est-ce l'éthique religieuse? Est-ce l'éthique esthétique humaine. Assister à un cours de philosophie. Vous assistez à un cours de philosophie parce que vous faites un acte d'obéissance. On vous demande d'assister à un cours de philosophie. L'acte d'obéissance, c'est quoi? En tant que religieux, c'est l'acte d'obéissance en éthique chrétienne. Censure. Mais l'obéissance peut être prise matériellement. Alors, l'obéissance est prise matériellement quand simplement on est présent. Je suis présent physiquement, mais je dors. C'est une obéissance toute matérielle. Elle n'est pas très chrétienne. Elle est matérielle. Si, au contraire, je veux obéir jusqu'au bout, je suis présent, je lutte contre le sommeil si je suis fatigué, et j'essaie de comprendre un acte d'obéissance intelligent. Oui, alors, c'est toujours l'obéissance, mais l'obéissance alors qu'il est une obéissance parfaite. Elle n'est plus matérielle, elle devient parfaite. Assister au cours, donc c'est l'obéissance. Assister au cours, est-ce que c'est l'éthique religieuse? Non. Je ne crois pas que c'est l'éthique religieuse qui est en cause. Cours de philosophie, oui, on pourrait dire, ça me permet d'être un peu plus lucide sur certains points. L'éthique humaine, hein, il peut y avoir dans l'éthique humaine une possibilité de compréhension plus grande si de fait j'éduque mon intelligence. Mais vous voyez qu'il y a une quatrième dimension, l'éthique politique. L'éthique politique, c'est l'éthique communautaire. Dans l'obéissance, il peut toujours y avoir une éthique politique et communautaire, vous voyez, qui va intervenir. On la verra après. On la verra ensuite. On va tout voir en même temps. Alors, il faut les voir successivement. Enfin, presque tous nos actes ont ces diverses dimensions. Je prends ici l'obéissance, mais c'est évident que l'obéissance est avant tout chrétienne. C'est sûr. Je pourrais dire que l'obéissance implique un aspect religieux. L'obéissance, elle est par un point de vue humain, c'est que de fait, ça me permet d'entrer plus profondément dans ce que représente le point de vue communautaire. Ça fait partie d'un exercice de communauté. Et je veux devenir plus intelligent, développer en moi l'intelligence, donc développer en moi la prudence. Donc ça développera un point de vue éthique humain. Donc on peut assister à un cours avec divers motifs. Et éveiller ces divers motifs, c'est comprendre ma responsabilité, mes liens. Vous voyez, donc il faut y réfléchir de temps en temps. Ça. Essayer de réfléchir sur l'analyse de ses responsabilités. Aux diverses responsabilités, à des niveaux différents. La responsabilité humaine, religieuse, chrétien, communautaire. Et c'est des motifs différents. Ça se tient quelquefois. Ordinairement, il y a un motif dominant. Mais le motif dominant ne cache pas les autres. Le motif dominant ici, par exemple, de l'obéissance. Bien, on peut dire, j'assiste un coup parce que ça m'intéresse. Ça, c'est un motif tout à fait différent. Ça m'intéresse. Je suis absolument libre de le suivre, mais ça m'intéresse. Ça me permet de développer mon intelligence. Ça me permet d'être plus humain. Ça me permet de mieux comprendre ma dépendance à l'égard de Dieu, éthique religieuse. Ça me permet d'avoir un contact plus fort avec ceux qui sont autour de moi, dans mon travail, éthique communautaire. Oui. Il y a des motifs différents. Toute notre vie, hein, l'homme, si vous voulez, l'homme est un animal religieux, qui peut être chrétien. Si c'est un homme chrétien, il a de fait cette quatre dimensions. Et nous essayons d'étudier ces quatre dimensions de responsabilité. Nous avons étudié la première, parce que c'est la plus fondamentale. La première, éthique humaine, tout entière orientée vers l'amour d'amitié. L'amour d'amitié est au point de départ, l'amour d'amitié est au terme. Et toute l'éthique humaine est enveloppée par l'amour d'amitié. Donc l'amour d'amitié joue vraiment pour l'éthique humaine le rôle de fondement et de fin. L'alpha et l'oméga. C'est à partir de l'amour d'un autre que s'éveille en moi la responsabilité. Et c'est à partir de ce lien avec un autre que, de fait, je peux davantage répondre à toutes les exigences de l'amour d'amitié. Et c'est à cause de cet amour d'amitié que j'acquiers la prudence, la justice, la force et la tempérance. Maintenant, je vais essayer de regarder cette autre dimension de l'éthique religieuse. Sur quoi se fonde-t-elle? C'est à partir du moment où mon intelligence humaine a découvert l'existence d'un être premier, que j'appelle Dieu, que les traditions religieuses appellent Dieu, que les traditions religieuses appellent le Créateur. C'est à partir du moment où mon intelligence humaine a découvert l'existence de cet être premier, qu'elle a reconnu que cet être premier était le Créateur. C'est à partir de ce moment-là que l'éthique religieuse va apparaître. Alors vous allez me dire tout de suite, hein, ça n'apparaît pas pour beaucoup de personnes, il y a très peu de personnes qui arrivent à découvrir que l'être premier existe, hein, au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique. Donc l'éthique religieuse, c'est très sélect, c'est pour le mathématicien, c'est pour quelqu'un qui a fait de la philosophie première et seulement pour lui. Et même, hein. Eh bien non. L'éthique religieuse apparaît pour tous ceux qui acceptent une tradition religieuse. Alors elle se fonde à ce moment-là sur une tradition religieuse. Donc découverte en philosophie première, l'être premier, on accepte une tradition religieuse. Toutes les traditions religieuses fondent une éthique religieuse. Alors les traditions religieuses, au niveau de l'intelligence, c'est une opinion. Ce sont des opinions bien fondées, des opinions solides. Parce que, de fait, ça repose sur certaines traditions, une succession de personnes et des gens compétents. Dans cette tradition religieuse, je vois des gens très intelligents. Je vois des philosophes comme Platon, Aristote, Épictète, Plotin, qui ont accepté ces traditions religieuses. Je vois dans les traditions religieuses chrétiennes des grands savants qui ont accepté ces traditions religieuses. Je vois des saints qui ont accepté ces traditions religieuses. Donc, je vois que ça se repose sur l'opinion d'une quantité de personnes. Donc, ça me donne une certitude pratique, qui suffit pour l'éthique religieuse. Pas besoin de plus. C'est suffisant. Au point de vue pratique, je n'ai pas besoin d'avoir plus que ça. L'opinion suffit au point de vue pratique. Une opinion bonne, et donc la tradition suffit. Si je peux aller plus loin et saisir que l'être premier existe réellement et qu'il est vraiment créateur, à ce moment-là, j'ai une vérité philosophique. Et mon éthique religieuse repose sur une vérité. Si je suis croyant de foi chrétienne, mon éthique religieuse repose aussi sur ma foi chrétienne. La foi chrétienne. La foi chrétienne me fait comprendre que l'homme est un être créé qui dépend de Dieu. Donc j'y adhère dans la foi, par ma foi chrétienne. Au point de vue philosophique, je crois qu'on doit prendre ces trois fondements de l'éthique chrétienne, de l'éthique religieuse. L'éthique religieuse, alors il peut y avoir les trois. C'est d'autant mieux. Je peux être philosophe, je peux être croyant, et je peux accepter les traditions religieuses. Donc ça ne s'exclut pas, c'est trois motifs différents. C'est le trépied, vous voyez, le trépied de Delphes, hein. Les trois motifs. Ils sont là, il y a l'intelligence pure, l'intelligence métaphysique, il y a les traditions de Dieu, et puis la foi. Et toutes les trois me montrent qu'il y a une éthique religieuse qui existe. C'est toujours intéressant de voir ça. Alors, cette éthique religieuse qui existe, premièrement, elle existe trois aspects qui la font. Cette éthique religieuse, elle va commencer à partir de quel moment? À quel moment elle va-t-elle apparaître? Qu'est-ce qui va être le caractère propre de cette éthique religieuse? Le caractère propre de cette éthique religieuse, c'est de comprendre que je suis une créature spirituelle capable de remonter à la source dont je dépends. Cette éthique religieuse se fonde sur le fait que je suis capable de comprendre ma dépendance radicale à l'égard d'un être premier. Ma dépendance radicale à l'égard d'un être premier. Cette dépendance radicale à l'égard d'un être premier me fait dire que je suis une créature. C'est-à-dire un être totalement dépendant. Mais un être aussi capable d'accepter cette dépendance ou de la refuser. C'est curieux, l'éthique religieuse va donc reposer sur la connaissance que j'ai du Créateur et sur l'acceptation ou la non-acceptation de ma dépendance à l'égard de ce Dieu Créateur. Vous voyez, quelque chose de très analogue, hein, avec l'éthique humaine. Mais c'est analogue, hein, donc c'est à la fois tout à fait différent et en même temps quelque chose de semblable. Nous avons vu que l'éthique humaine reposait sur un amour que j'accepte ou que je n'accepte pas. Bien, l'éthique religieuse repose elle aussi sur un amour que j'accepte ou que je n'accepte pas. Mais un amour d'un caractère tout à fait différent, c'est l'amour de la créature à l'égard de son créateur. Aimer cette dépendance radicale dans laquelle je me trouve. Et pourquoi aimer cette dépendance radicale dans laquelle je me trouve? C'est parce que je sais que cette dépendance à l'égard de mon Créateur n'est pas pour moi source d'aliénation. Parce que je sais que cette dépendance à l'égard de mon Créateur est source de libération pour moi. Parce que c'est le retour à la source. C'est le retour à celui dont je dépends, mais qui en même temps m'a tout donné. C'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir un amour. On peut aimer une dépendance, une seule dépendance. n'y a qu'une dépendance qu'on peut aimer, celle à l'égard du Créateur. Toute autre dépendance n'est pas aimable. Tandis que la dépendance à l'égard du Créateur est aimable. Si je la regarde bien, pas à contre-jour, si je la regarde bien, si je la regarde en face, si je la regarde à contre-jour, alors hein, c'est évident, c'est comme toutes les autres dépendances. Une dépendance à l'égard d'un homme me diminue. Alors vous allez me dire, oui, mais à l'égard de l'ami. Ah, à l'égard de l'ami. Est-ce que c'est la dépendance qui définit l'amitié? Non. Ce n'est pas la dépendance qui définit l'amitié. L'amitié, c'est un don mutuel qui peut impliquer des dépendances, mais d'une façon secondaire. C'est avant tout et en premier lieu un lien d'amitié. C'est pour ça que même dans l'ordre de l'amitié, la dépendance n'est pas aimable. Et c'est pour ça que l'ami doit tout faire pour que son ami soit de moins en moins dépendant. Et quand on aime quelqu'un, on veut lui donner une liberté totale. Et lui donner une liberté totale, c'est lui permettre d'être parfaitement lui-même. Et lui permettre d'être parfaitement lui-même, c'est justement lui donner son autonomie, la plus grande qui soit. Je crois qu'il n'y a qu'une seule dépendance qui soit aimable. La dépendance à l'égard de Dieu, à l'égard du Créateur. Ça, c'est important à saisir, ce point de départ, voyez, la naissance de l'éthique religieuse.
Seigneur est avec vous êtes bénie entre toutes les femmes.